vous apporte les salutations de vos frères et sœurs en Californie. J'étais là la semaine dernière, le dernier sabbat, et j'ai parlé à Garden Grove et La Crescenda. Alors, ils vous saluent chaleureusement. Parlant de la semaine dernière, lundi soir dernier, certaines personnes à travers le monde ont jeûné, reconnaissant en cela un événement biblique précis. Peut-être vous vous demandez pourquoi je fais allusion à ça, vous allez voir. Ça avait rapport avec un événement biblique se rapportant à des calamités qui sont survenues dans le passé, des châtiments de Dieu. Le 4 et 5 août de cette année, 2014, correspond au 9 du mois de Av, que les Juifs appellent Tisha B'Av. Un jeûne pour se rappeler des calamités passées. Ces Juifs dévots se sont rassemblés dans des synagogues, le 4 et le 5 août, et autour du monde, ils ont lu des passages d'un livre particulier, un livre qui se rapporte à ce jour en particulier. C'est un livre auquel on ne se réfère pas souvent à nous. Mais c'est un livre que je veux vous présenter aujourd'hui et qui a un impact profond, même dans certaines parties spéciales du Nouveau Testament. Ces parties spéciales de la Bible du Nouveau Testament, nous en parlons régulièrement et je vais y revenir plus tard. Donc, c'est approprié pour nous d'examiner ce livre de l'Ancien Testament et d'en apprendre les leçons. Pour les Juifs dévots qui ont jeûné lundi soir à mardi, ça se rapporte, cette date-là, à plusieurs événements historiques graves. C'est en ce jour que le temple de Salomon a été détruit sous Nabuchodonosor. C'est ce même jour, d'ailleurs, que le temple d'Hérode, celui auquel le Christ est venu et où il a prêché, a été détruit en l'an 70 de notre ère, exactement le même jour. Le temple a été détruit par les armées de Titus. C'est ce même jour que Simon Bar Kokhba, un prétendant messianique, a été défait par les armées romaines d'Adrien. En conséquence, le mont du Temple a été labouré par les armées et les Juifs ont été chassés de Jérusalem. Si on va plus loin, dans le temps maintenant, parce que c'est un jour très important pour la communauté juive. Ça ne s'arrête pas là. Si on va 1000 ans plus tard, nous arrivons à 1095, l'an 1095, où le pape Urbain II a décrété la première croisade ce même jour. Cette croisade s'est terminée par le pillage de Jérusalem et le massacre des Juifs. 200 ans plus tard, à peu près en 1290, le roi Jean, descendant de William le Conquérant, a banni les Juifs ce jour-là. Et deux siècles plus tard, les Juifs ont été exclus de la péninsule ibérique en 1492. Ce même jour, encore une fois. Alors, on peut voir tout le scénario historique associé avec ce jour précis, cette date particulière. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas simplement au passé lointain. Ça s'est passé aussi, ce jour-là, des choses particulières du temps de beaucoup d'entre nous. Plusieurs d'entre nous étions vivants en 1942, par exemple, lorsque les Allemands ont commencé la déportation des Juifs à partir du ghetto de Varsovie jusqu'à Treblinka pour être exterminés. Ce jour même. Et plus près de nous encore, en 1994, Il s'est passé quelque chose de spécial ce même jour. Une attaque soutenue par l'Iran à Buenos Aires, en Argentine, où 85 Juifs ont été tués. Ces Juifs s'étaient rassemblés pour jeûner ce jour particulier, selon leur tradition. Le pape actuel, le pape François, a émis un édit papal concernant cet événement le 18 juillet de cette année, 2014. Il a dit que ça doit être résolu. Bien sûr, le pape utilisait le calendrier grégorien, non pas le calendrier juif. En 1994, l'attaque à Buenos Aires correspondait avec le 9 du mois de Av. Donc, même au cours de notre vie, il y a plusieurs événements associés à ce jour précis. Le 9 de Av est reconnu comme étant le jour le plus triste de tout le calendrier juif. C'est un jour de calamité. Un grand nombre de calamités sont associées avec ce jour particulier. Il semble que les ennemis des Juifs ont choisi ce jour pour s'attaquer aux Juifs, pensant même apporter sur les Juifs un châtiment divin. Ce n'est pas mon souci d'aller plus loin dans ce sens-là aujourd'hui, parce que on peut mettre l'accent sur tout ce qui est arrivé sur les Juifs en ce jour-là. Mais si on fait ça, ça met l'accent sur quelqu'un d'autre. Mon but aujourd'hui dans le sermon est de mettre l'accent sur nous, en tant que peuple de Dieu. Le jeûne du 9 de Av est mentionné dans les Écritures. En lisant le livre de Lamentations ce jour-là, ça associe ce jour aux événements majeurs survenus dans le passé. On peut aller à Zacharie chapitre 8, et nous allons lire les versets 18 et 19. On parle ici de quatre jeûnes qui sont encore observés, célébrés par les Juifs dévots aujourd'hui. Zacharie 8 et le verset 18 et 19. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. C'est pourquoi aimez la vérité et la paix. Quatre jeûnes sont mentionnés. C'est le premier endroit où ces jeûnes-là sont mentionnés dans la Bible. Alors, il n'y a pas de lien avec le jeûne mentionné dans Lévitique 23, qui est une fête de l'Éternel. Ici, on parle de d'autres événements. Mais Dieu dit, ces jeûnes vont devenir un jour des fêtes de joie. Et il dit en conclusion, une proclamation, il dit, « C'est pourquoi aimer la vérité et la paix. » La vérité, c'est une qualité du caractère de Dieu. Et la paix, dans la langue hébraïque, le mot « shalom », ça ne se résume pas à ce que nous pensons de la paix généralement. Nous définissons la paix comme étant l'absence de conflit, généralement parlant. Dans la langue hébraïque, paix veut dire se soucier des autres, se soucier du bien-être des autres. Donc, ce dont il est question par le mot paix ici, c'est une sollicitude envers les autres. Ça veut dire se soucier des autres, ne pas être à part des autres, ne pas bâtir un mur entre eux et nous, de sorte qu'on ne les voit jamais ou qu'on ne les entende jamais ou qu'ils ne nous dérangent en aucune façon. « La paix, c'est se soucier du voisin. Et il dit, c'est pourquoi aimer la vérité et la paix. Aimer les choses de Dieu et aimer votre voisin. Prenez soin de votre voisin. Comme j'ai mentionné, ce ne sont pas des fêtes ordonnées par Dieu. Ce sont des jeûnes établis par les Juifs à cause des calamités qui se sont produites ce jour précis à différentes occasions. Alors, le 4 et le 5 août de cette année 2014 correspond donc à ce 9 du mois de Av. Ça rappelle la destruction du temple de Salomon et du temple d'Hérode ensuite. Ces édifices-là étaient très importants parce que c'était le centre de la vie du peuple de Dieu. Ces édifices-là étaient les plus importants. C'était le centre de la vie du peuple de Dieu. Vous pourrez lire 1 roi, chapitre 8. Vous allez voir quelle prière le roi Salomon a faite le jour de la dédicace du temple. Vous allez voir l'importance que le temple avait pour le peuple de Dieu. Ce n'était pas simplement un lieu quelconque. C'est là que la parole de Dieu était gardée. Aujourd'hui, nous avons des Bibles écrites et faciles d'accès. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Il y avait très peu de copies de la loi. C'était très rare. Et l'endroit où c'était gardé, c'était où? Dans le temple. C'était le lieu précis où la parole de Dieu était précieusement gardée. Alors, lorsque le temple a été détruit, à deux occasions, ça a été terrible pour le peuple de Dieu. Ça a eu un impact très profond sur des gens qui se considéraient comme étant le peuple de Dieu. Alors, en regardant le livre de Lamentations aujourd'hui, je veux qu'on l'apprécie comme il faut. Ce n'est pas simplement un livre de Lamentations sur les châtiments arrivés dans le passé, simplement sur des événements passés. C'est un livre concernant ce qui arrive au peuple de Dieu. Je veux aussi que vous réalisiez que le livre de Lamentations n'est pas simplement une prophétie en soi. C'est une grande leçon pour vous et moi aujourd'hui. On a beaucoup à apprendre de ce livre-là. Comme Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, redresser, pour instruire dans la justice. » Afin que l'homme de Dieu, celui qui appartient à Dieu, soit accompli, soit complet et soit propre à toute bonne œuvre. Nous pouvons être habilités à faire les œuvres de Dieu. Le livre de Lamentations a pris une très grande importance parce que ça a été considéré comme un des parchemins de fête. Le premier parchemin de fête, c'est le Cantique des Cantiques de Salomon, qui est lu à la Pâque. Le livre de Ruth était lu à la Pentecôte. Le livre des Lamentations, au centre des parchemins de la fête, était lu le 9 de Av. Le livre d'Ecclésiaste était lu à la fête des Tabernacles, alors que le livre d'Esther était lu à Purim, un mois avant la Pâque. Un moment très approprié pour ça. Alors, nous avons ce livre qui fait partie des Écritures. C'est associé au jour saint de Dieu, même si ce n'est pas établi en tant que jour saint. Mais ça nous enseigne des choses très importantes. Le livre de Lamentations, c'est, comme son titre le dit, des lamentations. Mais d'élémentation écrite par un observateur, quelqu'un qui voyait ce qui arrivait et ce qui était sur le point d'arriver aux gens. Et le point de vue que l'auteur donne, ce n'est pas nécessairement son point de vue, mais c'est d'abord le point de vue de Dieu sur la situation, pour les aider à réaliser à quel point ils s'étaient éloignés des standards de Dieu. Pour les aider à réaliser à quel point ils avaient besoin de changer et d'être entraînés, d'être corrigés, d'être enseignés dans la justice de Dieu. Ce livre-là, donc, est un livre de lamentation très forte. Le livre a été écrit à un moment particulier dans le temps. Dans 2 Chroniques, on voit le contexte et le moment où ça a été écrit. 2 Chroniques, le chapitre 34. Un jeune homme de 8 ans ici est devenu roi. Il a régné 31 ans à Jérusalem. Josias, il avait 8 ans lorsqu'il est monté sur le trône. C'était le fils et le petit-fils de deux rois méchants en Juda, Manassé et Amon. Son grand-père s'était repenti, mais son père, lui, n'a jamais appris les leçons. Mais ça n'a pas été le cas de Josias. Regardez ce qui est dit de lui au verset 2. On pourrait dire ici que c'est la phrase qui résume la vie de Josias. Son épitaphe, si vous voulez. Quel plus beau message pourrait être écrit sur une pierre tombale que celui-ci pour un serviteur de Dieu? Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il n'a pas été décrit en termes de caractère de son père ou de son grand-père. Il a été décrit en rapport avec son ancêtre plus lointain, David, qui était un roi juste. Si on va plus loin dans le chapitre, allons au verset 26 du même chapitre. Nous voyons une autre description de Josias ici. Une déclaration très forte en ce qui le concerne. À ce moment-ci, Josias avait purifié le pays, avait purifié le temple pour que le temple puisse être utilisé à nouveau pour le but pour lequel il avait été construit. Le sacrificateur Ilkija avait trouvé le livre de la loi et le roi avait envoyé Ilkija et les sacrificateurs vers Hulda, la prophétesse, femme de Shallum, fils de Tokéa. Et il a demandé quelle était la vue de Dieu pour son peuple, parce que le roi avait entendu la lecture du livre de la loi et il voyait les calamités qui s'en venaient à cause de leurs péchés. Il se demandait où allait se situer la miséricorde de Dieu dans tout ça. Et l'Éternel a inspiré Hulda de lui répondre. On le voit au verset 26. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Non, ce n'est pas l'opinion de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, a été tendre, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Dieu lui dit donc, tu ne verras pas, Josias, ces calamités-là. Tu vas t'endormir, tu vas mourir avant. Pensez à un mot en particulier qui a été utilisé ici pour décrire Josias, pour décrire le cœur de Josias. Parce que ton cœur a été touché, c'est-à-dire que ton cœur a été tendre. C'est très révélateur parce que dans la langue hébraïque, le concept de tendreté, selon les Juifs, c'est quelque chose qui est atteint en immergeant quelque chose dans l'huile d'olive. Nous connaissons par la Bible l'utilisation du vin et de l'huile en ce qui concerne les blessures, pour guérir les blessures. Le vin, bien sûr, a certaines vertus de désinfecter pour nettoyer la plaie, et l'huile d'olive, pour sa part, garde la peau souple, de sorte que la guérison puisse s'opérer comme il faut. Alors, l'huile d'olive est utilisée comme moyen de rendre souple et doux. C'est pour ça que dans l'original, ici, on dit que le cœur du roi a été tendre. On utilise l'imagerie de quelque chose qui a été immergé dans l'huile d'olive. C'est intéressant à considérer. Il nous faut faire une comparaison entre le cœur du roi et le cœur des gens de la nation à ce moment-là, parce que pendant que le roi pensait comme ça et qu'il s'approchait de Dieu et voulait faire sa volonté et avait le cœur touché, tendre, le peuple a suivi, mais à contre-cœur, avec mécontentement. Jérémie était contemporain de Josias. Jérémie, chapitre 17 et le verset 9, on connaît ce passage-là, où ça dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » Mais pensons-y un peu, reculons un peu dans le chapitre 17 de Jérémie, au verset 1, verset 1 de ce chapitre, s'il vous plaît. On apprend quelque chose d'important ici. Voici comment le cœur peut devenir méchant par-dessus tout. Parce que on décrit ici le cœur humain. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Alors, ici, Jérémie parle un peu de façon poétique. Il dit, ce n'est pas suffisant de dire que le péché est écrit dans les cœurs avec un burin de fer, il faut dire qu'il a été écrit avec une pointe de diamant, ce qui est encore beaucoup plus puissant et plus fort que le fer. Il est gravé sur la table de leur cœur, du cœur humain. Ce cœur-là n'est pas décrit comme quelque chose de souple et de malléable, de plongé dans l'huile. Non. Il parle du cœur ici en termes de pierre. Une table de pierre. Probablement une pierre très dure, comme le granit. C'est pour ça qu'il faut une pointe de diamant, la chose la plus dure pour être capable de travailler et d'écrire sur ce cœur. On voit que, en ce qui concerne le roi Josias, son cœur était tendre par rapport à Dieu, quelque chose qui avait été adouci par la présence de l'Esprit de Dieu, en opposition de la dureté du cœur des gens en général. Un contraste extraordinaire entre les deux. Josias, Dieu lui a promis qu'il ne verrait pas ses calamités au cours de sa vie. Malheureusement, Josias s'est mêlé de la politique régionale. On le voit dans la dernière partie du chapitre 35 de 2 Chroniques. Il est allé contre Pharaon Nico, roi d'Égypte, qui allait combattre avec les Babyloniens contre les Syriens. Il s'est impliqué là-dedans et Uzias est mort, il a été tué. Ceux qui comprennent la parole de Dieu, ceux qui comprennent la signification des prophéties données par Huldah, ont compris la calamité qui s'en venait. Alors, on voit à la fin du chapitre 35 de 2 Chroniques, à partir du verset 20, que Jérémie s'est lamenté. Et on voit que à la mort du roi, les gens l'ont pleuré beaucoup. Ces chants ont été écrits dans les complaintes, verset 25. Il s'agit ici du livre des Lamentations. C'est le livre de Jérémie. Le 9 de Av, donc, le jour le plus grave à s'abattre sur Juda au cours de l'histoire. Le jour où Nabuchodonosor a détruit le temple. Il avait été nettoyé, purifié par Josias, bien sûr. Vous pourrez lire 2 Rois, le chapitre 25. Vous allez avoir le contexte des 4 jeûnes dont Zacharie parle, qu'on a vu tantôt. Le premier jeûne, celui du 10e mois, décrit le moment où Nabuchodonosor a établi le siège contre Jérusalem. Le 4e mois, c'est celui où les murs de la ville ont été détruits. Le 5e mois, c'est-à-dire le 9 du mois de Av, c'est lorsque le temple a été détruit. Et le jeûne du 7e mois représente lorsque Guédalia, qui avait été désigné gouverneur par Nabuchodonosor, fut assassiné. À ce moment-là, comme conséquence, les gens avaient fui en Égypte. Et Jérémie s'était rendu en Égypte également. Alors, le point central du livre, le point central de cet événement, c'est la destruction du temple et des environs. Alors, le point central du livre, c'est la destruction du temple. N'oubliez pas, le temple était le centre de la vie du peuple. Nous sommes le temple de Dieu. Nous le comprenons. Question. Pouvons-nous être détruits? M. Leigh, dans une prédication, a indiqué que Satan cherche à nous détruire. Ça, c'est la réalité. Et il se sert de nos propres mains pour nous détruire, pour nous amener à nous détruire. C'est incroyable, mais c'est ça. Nous pouvons nous détruire nous-mêmes parce que nous sommes séduits et nous pouvons être séduits par Satan si nous lui permettons de nous séduire. Je ne veux pas dire que vous êtes séduits par Satan, mais il peut arriver que nous nous laissions séduire par Satan. Il ne faut pas le faire. Et si nous le faisons, Satan va travailler pour nous détruire. En examinant le livre de Lamentations, je vous pose une question. Quels étaient les problèmes du peuple de Dieu à ce moment-là pour amener de telles destructions? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte que ces calamités se sont abattues sur eux? Je veux vous parler de 4 points aujourd'hui. 4 problèmes que les gens de Jérusalem avaient, dans lesquels ils se sont impliqués et qui ont provoqué la destruction et les malheurs qu'ils ont connus. Je vous les donne ici en résumé, puis ensuite je vous en parlerai en détail. Premièrement, c'est l'impureté. Deuxièmement, c'est le manque d'enseignement religieux approprié. Troisièmement, manque de respect envers ceux que Dieu a établis comme ses messagers. Et quatrième problème, l'accent mis sur les aspects physiques de la vie plutôt que sur les aspects spirituels. Commençons avec le premier point, l'aspect d'impureté. Lamentations, chapitre 1, versets 1 à 10, dit ceci. Commençons au verset 8. Commençons au verset 8. Alors, Lamentation 1 et le verset 8. Le livre de Lamentation est un tout petit livre entre le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel. Il est entre ces deux prophètes majeurs. Lamentation 1, verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Nudité, c'est impureté. On le voit un petit peu plus loin. Elle-même soupire et détourne la face. Verset 9, on le voit. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin ou à sa destinée. C'est pourquoi elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Jérémie a écrit ces choses quelques dizaines d'années avant que ça se produise. Il voyait ce qui allait se produire. Et ce livre a été écrit par quelqu'un qui ne présentait pas nécessairement son point de vue humain, mais qui présentait d'abord la perspective divine sur ce qui se passait et sur ce qui allait arriver à ces gens en termes de conséquences de leur péché. Verset 10. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Voyez-vous? Alors, il y a plusieurs éléments d'impureté qui sont mentionnés ici. Bien sûr, ça commence avec sa souillure à elle, en parlant de Jérusalem, son manque de justice à elle. Mais, ultimement, ça parle du fait que le temple a été souillé. Il est devenu impur. Pourquoi? Parce que les Babyloniens y sont entrés dans cet endroit où seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le reste. D'autres membres de la communauté de Dieu pouvaient entrer. Verset 17, regardez, verset 17 maintenant. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. Un objet d'horreur, dans l'original, c'est une chose impure au milieu d'eux. Continuons maintenant au verset 22. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité, à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Jérémie parle en tant que prophète de larmes. Il se dit lui-même un prophète de pleurs. Il était un homme très émotif. Il a vu ce qui allait arriver au temple qu'il aimait, à la ville qu'il admirait. Et il a réalisé que ces choses-là allaient arriver à cause des péchés du peuple. Ça le rendait très bouleversé. Il en était profondément touché. Allons à Lamentation 4 et nous allons lire le verset 6, 6 à 8. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Sodome a été renversé en un court délai. Vous vous rappelez? Alors il dit, ce châtiment sur Jérusalem sera plus grand que celui de Sodome. Verset 7. Ses princes, les Naziréens, dans la version originale, étaient plus éclatants que la neige. Donc, ceux qui avaient fait les vœux de Naziréa étaient purs, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Il parlait de leur pureté originelle. Leur figure était comme le saphir. Leur figure était comme le saphir, quelque chose qui aurait dû continuer. Mais il dit, maintenant, verset 8, leur aspect est plus sombre que le noir, c'est-à-dire que la suie dans l'original. Ça me rappelle en Angleterre, il y a plusieurs années, quand on devait nettoyer les cheminées, que même des petits-enfants montaient à l'intérieur des cheminées pour nettoyer ces choses-là. C'est un monde bien différent, bien sûr, que celui où nous vivons aujourd'hui. Jérémie dit, « Leur aspect est plus sombre que la suie. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. » Quelques versets plus loin, verset 15. Regardez ce que les gens diront d'eux. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. Très intéressant, parce que dans le monde occidental où nous vivons, nous avons un grand souci de l'hygiène et de la pureté. Nous avons développé toutes sortes de potions ou de produits pour avoir soin de nos corps à partir de la plante des pieds jusqu'aux cheveux. Et ce qu'on utilise pour les cheveux, on ne l'utilise pas pour les pieds. Ce qu'on utilise pour les pieds, on ne l'utilise pas pour les cheveux. Vous allez à un magasin aujourd'hui et vous voyez des pleines rangées, des tablettes à n'en plus finir de produits différents, simplement pour se laver la tête, par exemple. Vous avez des shampoings, des conditionneurs pour toutes les type de cheveux qui existe. Moi, je prends le shampoing pour les cheveux très, très peu nombreux. Le jour va venir où je devrais chercher un shampoing pour quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Vous, le savon ne suffit plus aujourd'hui. On se spécialise dans toutes sortes de petites choses. On est loin de l'époque où on avait des longues barres de savon, on prenait un morceau de savon dans ça et on s'en servait pour toute l'hygiène du corps. Peut-être certains d'entre vous ne se rappellent pas de ces choses-là, mais ça existait. Je me rappelle avoir été visiter nos frères en Afrique et ils nous donnent un petit morceau de savon qui est brisé à partir d'une barre de savon de 20 ou 24 cm de long et on se sert de ce morceau de savon pour nettoyer tout notre corps. Alors, c'est différent. Quand Dieu parle d'impureté ici, il ne parle pas de notre hygiène personnelle, des douches que nous prenons ou ce que nous utilisons après comme produit. Il ne parle pas de déodorant, il ne parle pas de lotion ou de parfums ou d'autres colognes. Non. Il parle de quelque chose de plus fondamental que cela. Bien sûr, on doit prendre soin de notre corps, c'est normal. C'est important, l'hygiène est quelque chose d'important. Mais l'impureté dont il est question ici, c'est autre chose. Ça dépasse la question d'hygiène personnelle. La pureté dont il est question ici dépasse l'hygiène physique. Je me rappelle, lorsque j'ai été envoyé en tant que ministre en Afrique, j'ai été envoyé dans un pays qui n'a plus le même nom aujourd'hui. Ça s'appelait la Rhodésie à l'époque. Aujourd'hui, on l'appelle Zimbabwe. Nous visitions les gens et nous parlions d'aliments purs et impurs. Les gens, là, aimaient beaucoup les aliments impurs, surtout les crevettes géantes, les crevettes tigres. Alors, en discutant avec eux lors des visites, on arrivait finalement à discuter des aliments purs que Dieu nous donne. Et il disait, qu'est-ce qu'il y a de mal avec les crevettes? Notre réponse, habituellement, c'était ceci. D'où viennent les meilleures crevettes que vous mangez ici? Et la plupart des gens nous disaient immédiatement, elles viennent de Port Beira, la deuxième ville en importance au Mozambique. Il y avait un port de mer reconnu pour ses crevettes. Alors, ils avaient bien répondu. Et là, on leur demandait une autre question. On leur disait, de quelle partie du port de Beira viennent les crevettes? Parfois, ils devaient s'arrêter et réfléchir un peu. Et parfois, on devait les aider un petit peu dans leur réponse. Les meilleures crevettes venaient de la sortie des tuyaux d'égout dans le port de Beira. Et là, vous voyez le changement sur leur visage. Je n'en mangerai plus désormais si c'est comme ça. Alors, ça donnait des bonnes instructions, des bons enseignements, des enseignements utiles concernant ces choses-là. Ici, l'Éternel parle de quelque chose de plus important que l'hygiène de base. Ça nous concerne aujourd'hui, nous qui vivons dans le monde actuel. Nous observons la fête des pains sans levain cette année, comme les autres années. Et qu'est-ce qu'on fait? Lorsque nous allons, avant la fête des pains sans levain, dans les magasins, nous lisons attentivement les écrits sur les produits que nous achetons parce que nous ne voulons pas ramener chez nous aucun produit qui contient de la levure ou un agent de levure ou qui soit un produit levé. Si c'est le cas, on le remet sur la tablette. Parfois, on doit chercher longtemps pour trouver ce qu'on a besoin. Ça peut être quelque chose qu'on peut manger en termes d'aliments purs ou impurs, mais non pas durant la fête des pains sans levain, à cause du commandement de Dieu. On se dit, on reviendra après la fête des pains sans levain et on pourra acheter ce produit-là qui a de la levure. On ne veut pas que notre maison soit souillée, soit polluée par des produits levés ou de la levure durant la fête des pains sans levain. Notre vie est contrôlée par ce que Dieu dit. Aucun produit de levain dans nos maisons lors de la fête des pains sans levain. Nous sortons le levain de nos maisons et si nous achetons des produits durant cette fête, nous nous assurons qu'ils ne contiennent pas de levain. Nous nous soumettons à ce que l'Éternel nous dit. Bien sûr, nous ne mangeons jamais d'aliments impurs comme tels, mais durant la fête des pains sans levain, ce n'est pas question d'aliments purs ou impurs, mais on ne mange pas d'aliments qui contiennent du levain et on ne garde pas de levain dans notre maison. Alors, la pureté, c'est quelque chose de systémique dans notre vie. Ça contrôle notre conduite et c'est normal. Alors, avant la fête des pains sans levain, nous allons au magasin et instinctivement, on vérifie ce que contient les produits que nous avons l'intention d'acheter. En étant aussi systématique, ce que ça veut dire, c'est que ça devient symbolique de notre façon de vivre. Il y a des grandes leçons pour nous là-dedans parce que nous apprenons la voie de la pureté. En d'autres mots, nous apprenons à être différents. Une des grandes leçons de la pureté, c'est que ça crée en nous un sens de différenciation, un sens de différence. Il nous faut être alerte. Ce que les autres mangent, ce n'est pas nécessairement quelque chose de bon pour nous. Ça peut peut-être être la chose qui se vend le plus sur le marché. Mais si c'est en contravention des lois de Dieu, alors pour nous, ça ne nous passe pas par l'esprit même d'en acheter ou d'en manger. On le laisse de côté. On le laisse pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui ne comprend pas, par exemple, la loi des aliments purs et impurs, tout simplement. Les apôtres ont parlé de cette pureté dont je vous parle. Et encore là, ils ne parlaient pas simplement d'hygiène physique. Les apôtres ont utilisé un langage de pureté dans le sens que Dieu voulait que ce soit. Ça marque une frontière. Vous êtes un enfant de Dieu selon ce que vous mangez et ne mangez pas. Ça fait une séparation entre vous et ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, ceux qui ne considèrent pas les lois de Dieu comme ayant un effet sur leur vie ou une importance pour eux. Il y a un article très intéressant qui a paru cette semaine dans le journal concernant l'homosexualité. C'est intéressant la question qu'ils ont soulevée. Ils ont dit, pourquoi pouvez-vous défendre l'homosexualité en vous basant sur le livre de Lévitique et en même temps manger des crevettes? Parce que c'est quelque chose d'hypocrite. Les directives sont données dans le même livre. Le monde n'a pas idée du niveau d'hypocrisie que ça représente. Les gens vont mettre des choses en opposition comme ça. La pureté, la vraie pureté devient un point de séparation, une ligne de démarcation. Ça nous identifie de façon spéciale, particulière. Ça délimite les frontières. Ça maintient l'ordre et ça crée l'ordre divin, selon Dieu. Le Christ l'a bien expliqué. Allez dans Marc chapitre 7. On voit que dans Marc 7, au début, il est question des pharisiens qui reprochaient aux disciples de Christ de ne pas s'être lavé les mains avant de prendre leur repas. Et voyez ce que le Christ donne comme enseignement à partir du verset 18. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur? » Dans son cœur, voyez-vous? Ça ne change pas une personne en termes de son comportement. Mais il dit, ça entre dans son ventre, puis ça s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Si c'est quelque chose que vous ne devriez pas manger, peut-être vous allez être malade beaucoup. Vous allez peut-être vous sentir très mal. Mais éventuellement, ça sera éliminé de votre corps. Et la vie va continuer. Ça ne change pas le cœur. Bien sûr, il y a un moment où ça peut changer le cœur si vous le faites en attitude de rébellion contre Dieu. Alors ici, il ne parle pas de crevettes ou d'aliments impurs. C'est le contexte, vous le voyez avec le début du chapitre 7 de Marc, c'est le contexte où on reprochait aux disciples de ne pas s'être lavé les mains avant de manger. Il ne parle pas ici d'aliments purs et impurs. Alors, il dit, c'est ce qui sort de l'homme, du cœur de l'homme, qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et souille l'homme. Voyez-vous? Et chacun d'entre nous, nous sommes susceptibles de tomber dans ces pièges-là. On peut avoir ce genre de faiblesse et devenir impur. 2 Corinthiens, chapitre 6, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 6. L'apôtre Paul parle à l'Église ici, qu'on ne doit pas être avec des infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6 et le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voyez-vous, c'est toute la question de pureté ici. Ça a le rapport avec la justice de Dieu. Zacharie 8, verset 19, on l'a vu. Il est écrit, c'est pourquoi aimer la vérité et la paix. Aimer le caractère de Dieu et chérissez le bien-être des autres autour de vous. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voyez-vous, nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. C'est ce que nous sommes, le temple du Dieu vivant. Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi il dit ceci, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Faites une distinction. Vous appartenez à Dieu et non pas au monde et non pas à vos désirs charnels contraires à mes lois ou aux désirs du monde. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il dit une chose semblable à ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Vous pourrez le voir par vous-même. Alors, l'impureté des gens, ce qui sortait de leur cœur, était un problème à ce moment-là à Jérusalem. Et un problème pour les sacrificateurs. Impureté, impureté spirituelle. Le deuxième problème des gens à ce moment-là, c'était le manque d'enseignement religieux adéquat. Les sacrificateurs, les prophètes, n'accomplissaient pas leur devoir selon Dieu. Lamentations, chapitre 1, le verset 19. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer quoi? Leur vie. Quel était le point central des prophètes et des sacrificateurs? C'était de prendre soin d'eux autres, d'eux-mêmes, de se préserver eux plutôt que d'enseigner aux gens les voies de Dieu. Ils se souciaient davantage de leur bien-être que du bien-être des autres. Lamentations 2 et le verset 9 et 10 maintenant. Ça parle de la ville. Ça dit ceci. « Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. » Le roi, Jéconia, a été amené en captivité. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient été amenés en captivité aussi. C'était les justes qui ont été amenés en captivité. Et regardez ce qui est écrit après. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière et ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Il n'y a plus de loi. Aux yeux de ces gens-là, la loi de Dieu n'avait plus d'importance, n'avait plus de valeur. Si on va au verset 13 maintenant, « Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? » Dieu dit, « Qui peut te guérir? Tes prophètes, verset 14, ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, ils ne t'ont pas enseigné, ils t'ont permis de continuer dans tes voies mauvaises. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. » Il parle du peuple de Dieu ici. Chapitre 4 et le verset 13 de Lamentation. Voici, ici il parle des péchés des prophètes, de ceux qui devaient diriger le peuple et leur montrer l'exemple. Ils péchaient eux-mêmes et n'enseignaient pas la voie de Dieu. Voici les fruits des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Il y a un rapport entre ce que Jérémie dit ici et Jérusalem et ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. où Paul parle d'un temps où les gens ne voudront plus entendre parler de la saine doctrine. Et ils vont chercher des gens qui vont leur enseigner des choses qu'ils aiment entendre pour ne pas avoir à changer. Situation extrêmement triste. Des gens qui sont devenus impurs parce qu'ils ne se voient plus désormais comme étant séparés, comme étant distincts. Troisième problème, le manque de respect envers ceux que Dieu a établis comme ses messagers. Rappelez-vous, dans cet environnement où le livre de Lamentations a été écrit, Ézéchiel était là, Daniel était vivant, Jérémie était là. Combien de gens supportaient ces gens-là, les encourageaient, les aidaient? Très, très, très peu de gens. Vous voulez voir le manque de respect que les gens avaient pour ceux que Dieu avait établis en charge? Jérémie a été jeté en prison. Il a été même jeté au fond d'un puits pour qu'il meure. Lançons-le au fond du puits, dans la boue. Il va mourir lentement et on n'en entendra plus parler. Horrible. Mort possible et horrible, mais Dieu n'en a délivré. Lamentations 4 et le verset 16. L'Éternel les a dispersés dans sa colère et il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Aucun respect pour ses postes d'autorité. C'est triste. Le quatrième problème, c'est le fait que les gens avaient les yeux sur les choses physiques plutôt que sur les choses spirituelles. Ils regardaient Jérusalem pour ce que c'était. On le voit dans Lamentations 1, verset 1. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Les gens avaient les yeux sur la ville de Jérusalem pour elle-même. Ils en étaient fiers. Ils regardaient la prédominance physique de Jérusalem. Ils ne voyaient pas plus loin. Verset 7 parle de Jérusalem qui se souvient des jours heureux autrefois. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens qu'elle possédait autrefois, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Verset 10, l'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux, y compris le fait de voir des gentils, des non-juifs entrer dans le temple et entrer jusque dans le Saint des Saints. Chapitre 2 et le verset 15. Il parle de la ville comme d'une perfection de beauté. On dit, est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Chapitre 4 parle des fils qui étaient aussi précieux que leur fin et qui sont maintenant comme des morceaux d'un vase brisé. Sans valeur. L'archéologie fait de grandes découvertes au Moyen-Orient, des morceaux brisés de différents vases. Ça a été laissé là parce que les conquérants ne les considéraient pas comme ayant de la valeur. Ils sont devenus des indices nous montrant quelle était la sorte de vie qu'il y avait à ce moment-là. Mais les conquérants et les envahisseurs considéraient ces choses-là comme n'ayant aucune valeur. Jérémie 7, versets 1 à 7, vous pourrez voir, ça parle de l'attitude des gens. Les gens croyaient y être arrivés parce qu'ils avaient un temple physique. Et ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient un temple physique. Donc, ils se sentaient corrects, arrivés. On a vu qu'il y a eu quatre problèmes, quatre éléments qui ont créé des problèmes aux gens et amené des calamités horribles. Résultat de ces problèmes, Jérémie en parle clairement. La faim, la pauvreté, l'aveuglement, la nudité. quatre attributs, quatre situations difficiles, quatre états difficiles qu'on peut clairement associer à un passage biblique précis dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Les gens étaient pauvres, avaient faim, ils étaient aveugles et nus. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 17. Dieu parle ici des Laodicéens. Nous parlons beaucoup de Laodicée, n'est-ce pas? On ne veut pas être Laodicéen. Et à juste titre, il ne faut pas l'être non plus. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Mets ton centre d'intérêt sur les vraies valeurs de la vie. Et je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Très intéressant de considérer l'Église de Laodicée en rapport avec le livre de Lamentation. Les mêmes problèmes, exactement dans la perspective de Dieu. Lamentation, chapitre 3. Je vous suggère de le lire par vous-même au complet, cette semaine possiblement. Examinez ce chapitre en particulier. Ce chapitre diffère des autres chapitres du livre. Parce que ici, l'auteur parle à la première personne. C'est lui qui parle. Ça devient très personnel, plutôt que collectif, en parlant de Jérusalem. Voyez-vous, il parle plus en rapport avec lui-même qu'en rapport avec Jérusalem, l'ensemble. Il nous faut nous-mêmes nous intégrer à cette image que je vous montre aujourd'hui. Ça nous concerne. Ce chapitre parle de la repentance et de l'encouragement. Tout comme avec Laodicée, il y a un avenir basé sur la repentance, même pour les Laodicéens. Et pour ceux qui vont vaincre, il y aura une place dans le temple de Dieu. Voyons le passage dans le chapitre 3 de Lamentation qui parle de ça avec tellement de clarté et d'encouragement. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quelle fidélité! Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Ici, c'est une attitude de repentance, une attitude qui veut se purifier pour devenir acceptable à Dieu. La même sorte d'attitude que Laodicée devra développer. L'Éternel a de la bonté. Pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Rappelez-vous l'imagerie ici. Qu'est-ce que le Christ dit à Laodicée? Je me tiens à la porte et je frappe. Bang, bang, bang. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que les gens seront alertes à ces choses-là? dit l'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Expression très intéressante ici. Au chapitre 1, c'était décourageant pour ainsi dire, mais ici, c'est de l'encouragement. Dans les situations les plus désespérées, Dieu pourvoit de l'encouragement. Il ne veut pas nous rejeter. C'est nous qui pouvons le rejeter. Lui veut que nous apprenions les leçons que nous avons à apprendre et que nous changions pour devenir comme lui. Même leçon que Laodicée devra apprendre. Même leçon que nous voyons ici dans le livre de Lamentations. Le résultat d'apprendre ces leçons, ça veut dire que ces jeûnes dont il est question dans Zacharie pourront être changés en jours de fête. C'est ce que Dieu mentionnait. Voyez-vous, dans le monde à venir, peut-être nous allons faire des fêtes ces jours-là. Et les gens vont dire, ces jours ne sont plus désormais un signe des calamités que Dieu a envoyées, mais jours de fête. Parce que Dieu nous a tant aimés. Zacharie 8, verset 19, c'est pourquoi cherche la vérité et la paix. Recherche la vérité et le bien-être des autres. Notre Père cherche notre bien-être jusqu'au bout. Il veut nous amener au point de comprendre ce que nous devons comprendre. Quand est-ce que cela va se passer? Matthieu chapitre 23, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 23. À la fin de cette section où le Christ a prononcé des malédictions, Matthieu 23, verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Zacharie parle de la maison de Juda, la maison de David, se lamentant, pleurant et jeûnant. Et tournant les yeux vers celui qu'ils ont percé. Ce jour vient. Qu'en est-il de nous? Il nous est donné souvent l'avertissement d'être fidèles à Dieu, de prendre notre engagement au sérieux. Matthieu 24 et le verset 45. Le Christ ici parle du serviteur qui est appelé pour prendre soin de l'œuvre de Dieu et des autres. Nous avons été appelés à devenir des serviteurs de Dieu. Matthieu 24 et le verset 45. À la fin du chapitre, donc. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il dit, heureux ce serviteur. Et il continue en précisant les caractéristiques de celui qui est un bon serviteur. Par contre, il donne l'opposé au verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le Christ nous donne à nous, vous et moi, un avertissement sérieux. Sommes-nous un bon serviteur fidèle ou pouvons-nous être décrits, selon la perspective de Dieu, comme étant un méchant serviteur? La réponse est entre nos mains. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens qui se considèrent comme membres du peuple de Dieu, vous et moi, chacun et chacun d'entre nous doit faire attention à cet avertissement pour ne pas tomber dans ce piège. La communauté juive jeûnent pour un but qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, nous comprenons la fin de toute chose, le plan de Dieu. Dans Lamentations, chapitre 1, ça parle de Jérusalem qui a oublié sa destinée. Vous et moi n'avons aucune excuse. Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas oublier notre destinée. Le royaume de Dieu, dans lequel la justice de Dieu va exister. Le résultat final de la parole de Dieu.